Et notre invité ce matin, Emmanuel Fontaine-Domézel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère départementale sur Manosque 2, ancienne députée des Alpes-de-Haute-Provence, ancienne depuis que Christophe Castaner a repris son poste. Est-ce que vous vous sentez mieux, Emmanuel Fontaine-Domézel? Je vous pose cette question parce que la semaine dernière, vous avez annoncé votre départ du parti La République En Marche en décrivant une situation, et je cite, « inconfortable ».
Quand on est dans une situation inconfortable et qu'on la quitte, on se sent beaucoup mieux, oui, bien sûr.
Qu'est-ce qui était inconfortable?
Ce qui était inconfortable, c'est la position d'être une suppléante. C'est déjà très inconfortable. Quand vous êtes une suppléante et que vous savez qu'à tout moment, vous pouvez partir, vous savez, le général de Gaulle disait que il fallait que les suppléants gardent leur place tout le mandat parce que il ne fallait pas que les politiques mangent à la soupe. Je pense que si on pouvait réfléchir au statut des suppléants déjà, ça serait plus confortable pour eux, pour que on puisse mener au bout des dossiers, avoir parfois des responsabilités qu'on nous donne pas à l'Assemblée nationale simplement parce que on sait qu'à tout moment vous pouvez partir. Donc c'est des situations qui sont inconfortables. Être une femme en politique n'est pas confortable aussi, mais surtout, ce qui était inconfortable, en tout cas ces derniers temps, c'est je suis partie à la réserve sanitaire. Vous savez, ce qui est inconfortable, c'est de voir les réalités du terrain à l'hôpital, en mission. Je suis partie sur de nombreuses missions aux quatre coins de notre pays et de voir cet écart entre les réalités du terrain et les mesures qui sont prises. Et puis une raison aussi se penchant de plus en plus vers la droite qui on sait très bien que je suis de gauche et qui glissait véritablement et qui ne me correspondait plus.
On va revenir sur toutes vos déclarations, parce que vous lisiez, il faut réfléchir au statut des suppléants, on ne donne pas de responsabilité à l'Assemblée nationale. Mais ceci dit, ça n'explique pas le fait que vous vouliez partir de La République En Marche. Vous pourriez très bien être loyale jusqu'au bout au parti.
Alors, j'ai été loyale surtout par rapport à mon titulaire. J'ai été loyale. Il y a plusieurs éléments dans ce que je vous ai dit, mais c'est surtout, vous me posez la question pour La République En Marche. Vous y avez répondu, il y a une droitisation qui ne correspondait pas à mes valeurs. C'est probablement une des raisons qui m'a fait quitter ce mouvement. Effectivement, être suppléante, c'est inconfortable. Et j'avais répondu à cette question-là sur l'aspect inconfortable de mon statut.
Et quand vous dites être une femme en politique n'est pas confortable, est-ce que ça veut dire que pour autant votre avenir politique est fini?
Ah, mais les choses inconfortables, on peut se battre aussi pour de vrais engagements. Je crois que on doit donner aujourd'hui une place aux femmes en politique. Je pensais qu'elle était déjà en place. Je me suis aperçue que oui, il y a des femmes en politique, mais on ne fait pas confiance de la même manière aux femmes qu'aux hommes. Mais ça fait partie de mes combats.
Vous le dites, j'ai été loyale à mon titulaire, donc à Christophe Castaner, jusqu'au bout. Ça veut dire que vous seriez partie plus tôt, parce qu'on rappelle qu'en juillet dernier, vous n'aviez pas voté la confiance à Jean Castex.
Oui, j'ai pas voté la confiance à Jean Castex. Et oui, j'ai été loyale, me semble-t-il, jusqu'au bout à Christophe Castaner.
Sinon, vous seriez partie, déjà.
Écoutez, vraiment, quand je vous dis que je suis partie à la réserve sanitaire et que j'ai travaillé dans beaucoup d'établissements, je crois que ça a été un véritable changement en moi et un électrochoc. Il y a avant la crise du Covid et il y a après la crise du Covid, et c'est un peu concomitant au niveau du timing. Donc avant, après, c'est vraiment ça qui aussi m'a révélé pas mal de choses.
Et qu'est-ce que Christophe Castaner vous a dit lorsque vous lui avez annoncé votre départ de La République En Marche, lui qui est désormais président du groupe LAREM à l'Assemblée?
Moi, personnellement, rien. Je crois que Christophe Castaner me connaît bien et qu'il n'est pas forcément étonné de la décision que j'ai prise. Je suis, et il le sait, il a toujours su, je suis attachée aux valeurs de la gauche.
Mais lui
on voit
aussi,
bien.
c'est un ancien socialiste.
Alors, ça, il faut lui poser la question.
Alors pour vous, il n'est plus socialiste.
Ah non, mais moi, j'ai rarement l'habitude de répondre à la place des gens. Et alors, sur ce sujet-là, je pense qu'il faut vraiment lui poser la question à lui.
Mais moi, je vous pose la question en tant que femme politique, justement. Vous le disiez, les femmes politiques, on ne leur laisse pas assez la parole. Mais Christophe Castaner, qui était ministre de l'Intérieur, vous reprochez une droitisation du mouvement La République En Marche. Est-ce que Christophe Castaner a toujours des valeurs socialistes, selon vous?
Mais vraiment, il faut lui demander à lui.
Mais moi, je vous pose la question à vous.
Moi, je suis partie de ce mouvement parce que je trouvais qu'il se droitisait. Maintenant, peut-être que Christophe trouve que ce mouvement est assez équilibré. Pour moi, il n'était pas assez équilibré entre ce que je projetais et ce pourquoi 65% des Français ont cru. C'était un équilibre entre cette droite et cette gauche, sans parler de la droite et de la gauche. On a parlé de ni droite ni gauche, il y avait un équilibre, il y avait un projet pour la France. Et aujourd'hui, pour moi, puisque je réponds pour moi, il y a une vraie droitisation. Il y a eu quand même, on a entendu parler de Renaud Muselier, d'Estrosi, qui sont quand même des noms qui résonnent avec une droite parfois, il y a des noms de droite dure, et qui ne me correspondent plus. Mais peut-être que Christophe Castaner vous dirait que c'est toujours équilibré. J'ai trouvé qu'il n'y avait plus cet équilibre entre ce projet de ce mouvement d'être innovant, d'être équilibré.
Mais lui, vous le voyez toujours comme ayant des valeurs socialistes.
Je le vois en marche ce qu'il est. Je le vois en marche.
Vous le voyez en marge, donc un peu déséquilibré, alors si on peut dire. En tant qu'infirmière, vous l'avez dit, hein, vous êtes partie exercer sur plusieurs secteurs, Besançon, Manosque, Mulhouse, Guadeloupe et récemment en Guyane avec la réserve sanitaire de Santé publique France par rapport à la crise du coronavirus. Quel est le constat que vous avez dressé sur place en tant que professionnelle? Vous nous en avez quelque peu parlé.
Le constat, j'ai rencontré sur des missions totalement différentes, vous les avez énumérées, sur des secteurs qui ne se ressemblent pas. Les Outre-mer ne ressemblent pas à Mulhouse, par exemple, ou à Besançon. Le constat, c'est des soignants en manque de reconnaissance, en épuisement professionnel et ne pouvant pas toujours exercer dans ce cadre de la crise leur mission de soignant, simplement parce que ils n'ont pas les moyens et ils n'ont pas cette reconnaissance. Moi, j'ai souvent dit au ministère, qu'est-ce que c'est un soignant? Un soignant, c'est quelqu'un qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais qui, à côté d'être un soignant, un professionnel, a une famille, des amis, a une vie sociale. Et je me suis aperçue que ces soignants avaient plus une vie professionnelle qu'une vie sociale. Or, je crois qu'on a besoin aussi de cette vie sociale. C'est des gens qui donnent beaucoup. C'est des gens qui sont des professionnels souvent dévoués et qui ont des salaires qui aujourd'hui on les révèle et qui ont pas cette reconnaissance salariale. Pourtant, ils ont un rôle majeur dans notre pays. On l'a vu, ils ont été l'équilibre de ce pays. Donc j'ai vu ça, j'ai vu des soignants qui me disaient il a fallu au moment de la crise qu'on choisisse les gens qu'on prenait en charge, qu'on prenait pas en charge, cette souffrance au travail par rapport aux soins. Voilà, j'ai vu aussi, d'un autre côté, je suis allée, j'étais députée, et je voyais les mesures qui étaient prises par notre assemblée et puis par le gouvernement. Je l'ai souvent dit au ministre de la Santé, Olivier Véran, que je connais très très bien, et au ministère, qu'il y avait un déséquilibre, qu'il fallait que qu'il y ait cette reconnaissance. On a eu
une reconnaissance qui passerait par quoi?
Une reconnaissance salariale, une reconnaissance au niveau de la carrière. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, par exemple, moi je suis touchée, autour de moi j'ai des infirmières qui ont fait un doctorat, qui reprennent leur travail dans un service de médecine parce que elles n'ont pas de poste et il n'y a pas cette reconnaissance de ce travail et de cette acquisition de compétences. Et ça, ça fait partie de la carrière. Il faut qu'on puisse imaginer des carrières pour les soignants, des évolutions, des valorisations. Ça passe par là, ça passe par une valorisation salariale et une reconnaissance de leur travail. Je l'ai dit très souvent, arrêtons de dire que ces professionnels sont des héros. Non, ce ne sont pas des héros, ils ont peut-être un masque, ils n'ont pas de cap. C'est des gens qui ont des compétences. C'est des gens qui travaillent et c'est des gens, quand on travaille, eh ben, on doit être reconnu. Et surtout, quand on est héros, on n'a pas le droit de craquer. Or, les soignants sont des humains, ils ont le droit de craquer aussi. Mais ce sont des professionnels avec des compétences qui sont allés à l'école, comme les autres professionnels.
Et déjà, vous aviez interpellé le gouvernement en novembre 2018, vous aviez dit ni bonne, ni non, ni conne. Dernière question, vous siégerez toujours au sein de la majorité du conseil départemental en tant que divers gauche aux côtés des élus socialistes. Allez-vous être candidate pour mars prochain, toujours sur Manosque 2?
Alors, est-ce que je vais être candidate? Vous savez, quand on a été député, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris sur les institutions, la meilleure solution aux problèmes rencontrés dans un pays, dans un département, les pratiques du monde de la politique. Est-ce que je tire vraiment les leçons de la position de la position d'une députée et de cette vue globale des choses?
Ça veut dire qu'on pourra vous voir aux législatives?
Alors là, c'est encore plus loin, hein, je vous avoue. À chaque jour, ça suffit sa peine, hein, je dirais. Aujourd'hui, je suis très attachée, et tout le monde le sait, je suis très attachée à notre département des Alpes de Haute-Provence. Si j'ai envie de m'engager pour les citoyens, ça fait partie de ma conception, mais je suis aussi j'ai envie d'avoir une vie professionnelle. Moi, je suis pas une professionnelle de la politique. Je suis infirmière, je travaille, et si je peux me mettre au service des citoyens, je le ferai. Mais vraiment, pour moi, c'est pas un métier. Demain,
donc vous serez candidate.
Ça peut s'arrêter.
Donc vous serez candidate en mars prochain.
Je suis très attachée, je pense que je peux être candidate. Vous savez, des changements, il peut y en avoir, mais je pense que je serai candidate.
Merci beaucoup Emmanuelle Fontaine de Mézel. Je rappelle que vous êtes conseillère départementale sur Manosque 2 et ancienne députée des Alpes-de-Haute-Provence. Merci d'avoir été avec nous.